Anne-Marie Fontaine, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour aujourd'hui nous parler de la construction de l'image de soi dans le miroir. Juste un bref rappel de ton parcours. J'ai la joie, moi, de te connaître au CNRS.
Depuis longtemps.
Voilà, de psychobiologie de l'enfant auprès de Madame Bloch, qui dirigeait ce laboratoire. Mais toi, antérieurement, tu as pu bénéficier aussi de René Zazot, qui était antérieurement aussi directeur de ce laboratoire de psychobiologie de l'enfant.
Qui avait pris la suite de Vallon, d'Henri Vallon.
Voilà, tout à fait. Et tu as un parcours aussi de psychologue de l'enfant, tu es docteur en psychologie de l'enfant. Tu as été ingénieur de recherche d'abord au CNRS, donc d'abord auprès de Zazot dans ce laboratoire. Puis auprès de Jacqueline Nadel, là où tu as travaillé plus sur les interactions entre enfants. Et ensuite, tu as rejoint donc, le parcours universitaire d'enseignant-chercheur, où tu as acquis aussi ton doctorat et tu as travaillé en tant qu'enseignant-chercheur aussi, chercheur dans le laboratoire de psychobiologie de l'enfant auprès de Madame Bloch. Bien, je suis très heureuse aujourd'hui de t'entendre sur... cette construction donc de l'image de soi à travers le miroir qui est mal connue et que je souhaite que tu puisses retracer un petit peu ta collaboration, ta participation auprès de René Zazot et de nous amener à revivre un petit peu cette recherche et à comprendre aussi les aboutissements de cette conscience de soi. Merci.
Mais c'est un vrai bonheur. Du coup, j'ai relu ce livre qui s'appelle « Reflets de miroir et autres doubles » que Zazot a publié en 1993 et qui est un livre, je pense, assez unique de la part d'un chercheur. D'abord parce qu'il est à la fin de sa carrière, même au-delà, il est déjà en retraite quand il fait ce livre. Et il raconte la recherche comme les articles de recherche ne la racontent jamais. C'est-à-dire qu'il raconte toutes ses réflexions, ses pensées, les détours, les hésitations, les dispositifs expérimentaux qu'après il remet en cause, alors il retourne sur le terrain, puis il refait un nouveau dispositif. Donc il a conçu son livre avec deux typographies, une typographie normale où il raconte les résultats de la recherche, au fur et à mesure qu'elle se passe, et c'est une aventure qui a fait 10 ans finalement, à laquelle j'ai participé de bout en bout. Et ensuite, en plus petit caractère, il écrit tout sur les dispositifs, y compris matériellement, comment on les a conçus, les difficultés qu'il y a eu, etc. En disant au lecteur, si ça vous rase, vous sautez. Mais c'est intéressant parce qu'on se rend compte que, au détour de toutes ces réflexions, il met en cause ses propres dispositifs à certains moments en se disant, est-ce que j'ai pas fait un biais avec mon dispositif, etc. Zazot était un chercheur incroyable parce que c'est un journal reconstitué, mais dans la réalité, toute sa vie de chercheur, il avait un cahier d'écolier dans son cartable, et dans le bus, n'importe où, quand il avait une idée, il l'écrivait dans son cahier. Et régulièrement, enfin de temps en temps, il le relisait. Et il se disait, mais il y a 6 mois, j'avais déjà eu une idée que je n'ai pas creusée. Et au détour de ce qu'il était en train de travailler à ce moment-là, il voyait tout d'un coup des correspondances ou des choses en se disant « Mais oui, bien sûr, j'aurais dû, j'avais une idée que je n'ai pas creusée, etc. » Donc il avait, pour lui-même, il avait cette habitude d'essayer de faire un peu une archéologie de sa pensée, si on peut dire, pour revenir sur sa pensée antérieure, pour y voilà. Donc en fait, ce livre-là commence par une invite au lecteur à laquelle il veut mettre le lecteur dans la même disposition qu'il était lui au départ de cette recherche. Donc il dit au lecteur, répondez à cette question, à quel âge vous pensez qu'un enfant se reconnaît dans le miroir et à quel âge il reconnaît sa mère dans le miroir. Et donc, il invite le lecteur à répondre. Voilà. Ensuite, il va raconter tous les épisodes. Et à la fin, il revient. Il réinterroge, finalement, je ne sais plus si c'est à la fin ou au milieu, mais je ne sais pas, 200 personnes, c'est-à-dire des étudiants, des amis, des gens qu'il va rencontrer dans un colloque, et en leur posant ces questions-là. Et on s'aperçoit que, je commence un peu par la fin, ce qu'il appelle l'illusion spéculaire. C'est-à-dire que quand on demande comme ça à des gens tout venant à quel âge un enfant se reconnaît, généralement ils disent, alors il y a une variété incroyable, mais la plupart du temps c'est avant un an. La grosse majorité des réponses est avant un an. Voilà. Et à quel âge il reconnaît sa mère? Ben, alors la moitié disent plus tôt, d'autres disent plus tard. Et justement, ce qu'il reprend à la fin, qui est tout un chapitre, il appelle l'illusion spéculaire, après avoir expliqué toutes ses recherches, c'est que, en fait, pour tout un chacun, c'est une évidence. On se voit dans le miroir, on se reconnaît. Et ce mot de se reconnaître, pour l'adulte, n'est pas faux, c'est-à-dire qu'on s'est déjà vu dans le miroir des milliers de fois peut-être, des centaines ou des milliers de fois, on s'est vu en photo, etc. Et donc, chaque nouvelle fois où on se voit, on se reconnaît, sachant qu'on change aussi et qu'on doit aussi un peu réajuster. Des fois, on se reconnaît moins, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on oublie, c'est que parfois, il y a des adultes avec des maladies dégénératives qui ne se reconnaissent plus. Mais en général, on n'y pense pas quand on répond à la question. Et justement, ce qu'a montré René Zazo, c'est que ce terme de reconnaissance, ou en anglais, on a plein d'articles, self-recognition, en fait, pour l'enfant, il est faux. Et donc, il pose une autre question aux adultes qu'il rencontre. Il leur dit: est-ce que vous avez déjà vu votre visage en vision directe? Et cette question les sidère. Parce que, en fait, on ne se l'est jamais posé. Et en fait, personne n'a vu son visage en vision directe. Oui, mais elle est sidérante, hein, pour les adultes interrogés. Et voilà, il donne un exemple, par exemple, de 200 personnes. Il y en a deux ou trois qui disent bah, « non, c'est pas possible ». Enfin, voilà. Donc, cette sidération-là de dire ça, c'est vraiment une évidence. Et en fait, ce que vont montrer toutes ces recherches, qui n'existaient pas avant à peu près 1970, hein, c'est vraiment à cette époque-là que ça a vraiment démarré, c'est que pour l'enfant, le problème n'est pas de se reconnaître, il est de se connaître et d'apprendre à identifier cette image en face de lui pour pouvoir arriver à dire « c'est la mienne ».
Oui, on est en développement, hein, donc tout se construit.
Voilà, tout se construit. Et donc cette image, il l'a construite, il l'apprend en quelque sorte, hein, il fait son premier apprentissage, voilà, et rien n'est inné. C'est-à-dire que c'est vraiment une construction. Et donc, on a toujours tort. Et alors, il dit lui-même, j'ai repris dans mes questions, au tout venant, j'ai repris ce mot de reconnaissance, parce que tout le monde l'emploie, et tout le monde l'emploie toujours, mais pour l'enfant, c'est faux. C'est l'identification de son image. C'est ça la vraie question. À quel moment et comment il va identifier son image, en se basant sur quelle expérience, voilà. Et après, effectivement, une fois que cette première expérience d'identification est faite, alors elle va être solide et elle va continuer toute la vie. Bon, Zazo était quelqu'un qui ne faisait pas de bibliographie systématique de ce qui s'était fait avant. Mais d'abord parce que dans les années 70, quand on a démarré en 72, il y avait pas grand-chose. Et en fait, ce qu'on avait avant, c'est Darwin, 1800, fin de 1880, quelque chose comme ça, Preyer, à peu près même époque. Hein. Et en fait, c'est ce qui, en s'appuyant sur ces auteurs-là, on disait, l'enfant se reconnaît vers 9 mois. Voilà. Lacan, qui connaissait bien Vallon à l'époque, 1931, est invité par Vallon à écrire un article dans l'encyclopédie universelle, quelque chose comme ça, fait un article sur l'enfant devant le miroir, où il reprend ce que Vallon disait lui-même de Darwin et de Preyer, Vallon n'ayant pas fait d'observation lui-même là-dessus, et dit, l'enfant dit « Ah !» et s'exclame devant le miroir, et c'est le signe qu'il s'est reconnu. et qu'il a, alors il a une autre façon, un autre vocabulaire de le dire, qu'il a en quelque sorte unifié son image morcelée par ses perceptions sensorielles diverses, qui, voilà, il unifie grâce au miroir son
voilà. Sa représentation.
Voilà, donc Zazo reprend un petit peu à la fin de son livre cette, en disant, en fait, moi, Zazo, je suis retournée au texte de Darwin, moi aussi, j'y suis retournée. En fait, Darwin tenait un journal du développement de son fils. Hein. C'est là-dessus qu'il a basé, en fait, c'est les débuts de la psychologie de l'enfant.
Hein, Darwin. C'est pareil. Hein.
Voilà. Et donc, curieusement, Zazo a beau chercher, il n'y a que deux petits passages où il parle du miroir. Ça n'a rien de systématique comme observation. Et il y a, à 9 mois, l'enfant qui s'est vu dans le miroir... oui, l'enfant s'est vu dans le miroir, à 9 mois, il remarque que quand on l'appelle, dans la pièce où il y a le miroir, il regarde le miroir. Bon, voilà. Et à peu près à la même période, donc, chaque fois qu'il voit ou lui, ou sa mère, ou son père dans le miroir, il dit « Ah !» Et c'est tout. C'est sur cette seule base qu'il dit, l'enfant se reconnaît devant le miroir. Voilà. Prière fait la même chose, il note des choses un peu plus systématiquement, il dit la même chose. Voilà. Et voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas plus... Zazo dit, on ne sait même pas si l'enfant était dans les bras de son père ou pas de son père, ou parce qu'à 9 mois, il pouvait très bien être dans les bras. Donc on ne sait rien, on ne sait rien du contexte. Et en fait, c'est là-dessus qu'on est resté. Et alors, bon, Zazo dit, je ne sais pas pourquoi, mais Lacan a transformé le 9 mois en 6 mois. Et d'ailleurs, dans le texte de Lacan, Darwin devient Baldwin. Alors que Baldwin n'a...
Oui, ça
n'a
rien à voir.
N'a... Voilà. Pas... voilà. Mais donc, on était sur un espèce de « on dit », basé sur, en fait, pas d'observation systématique. Voilà. Et Zazo, donc, je reviendrai après sur les différentes étapes, mais Zazo, lui aussi, tient un journal pour ses 3 fils. Il tient un journal dans la bonne tradition des psychologues de l'enfant, voilà. Et sur le journal de son 2e fils, il note une réaction qui vraiment l'intrigue. On est en 1947, et il note que son fils étant dans les bras de sa grand-mère, je crois, devant le miroir au-dessus de la cheminée du salon, prend des attitudes très fuyantes par rapport au miroir, enfin, comme si c'était désagréable pour lui. Et quand la grand-mère lui dit « qui c'est là ?», il se met à rougir brusquement et à se détourner, à plus vouloir regarder. Et donc, Zazo est très intrigué, il note ça dans son journal et il dit « est-ce que c'est cette espèce de réaction émotionnelle ?» Est-ce que c'est le signe qui s'est reconnu? Oui, mais alors, mon fils a 2 ans. Alors, il est très, très en retard. Alors, comme dit Zazo, qui est toujours plein d'humour, il dit 2-3 choses l'une. Ou mon fils est débile. Ou, alors la deuxième, c'est ou tout ce qu'on a dit antérieurement est faux. Ou, troisième hypothèse, j'ai peut-être, dans le développement de mon fils, raté quelque chose. Voilà. J'aurais peut-être dû voir qu'il s'est reconnu plus tôt. Hein. Donc, il reprend les notes qu'il avait. Il a à peu près 8 ou 9 fois, évidemment, pas non plus d'une façon très systématique, mais 8 ou 9 fois, il a noté des réactions de son fils devant le miroir. Et il a beau chercher, il ne voit pas dans ses notations quelque chose qui lui explique des étapes intermédiaires. Et bon, on est en 1947, il a bien d'autres travaux en route. Ensuite, il a lancé tous ses travaux sur les jumeaux, etc. Voilà. D'accord. Il oublie. Et on se retrouve dans les années 70, où moi j'arrive dans le laboratoire, et où il s'est passionné dans les années juste avant, 71, pour l'attachement, pour tout ce qui était les controverses, enfin pas les controverses, mais entre les psychanalystes, et les étaux psychanalystes comme Bowlby, etc., ou Spitz, bon, qui montrent que l'attachement est quelque chose de vraiment fondamental Et alors que, en étant très très caricatural, en psychanalyse, c'est tout ce qui est oral, l'oralité qui est fondamentale dans la relation mère-enfant. Et à ce moment-là, il fait un colloque épistolaire absolument magnifique d'ailleurs, où au lieu de réunir les gens voilà, ensemble, en chair et en os, il fait courir un colloque entre Bowlby, Le Bovici, etc., voilà, pour discuter de cette nouvelle, ces nouvelles idées. Là-dessus, moi étant dans son laboratoire, je lui propose un jour, je lui dis, ben, puisque vous avez travaillé sur les jumeaux, vous avez travaillé sur l'attachement, évidemment, moi je suis passionnée par ce qui le passionne, je me demande si je n'ai pas envie de faire une recherche qui serait sur l'attachement chez les jumeaux. Et je vois, on pourrait les filmer l'un en face de l'autre, mais aussi peut-être chacun, si c'est des jumeaux monozygotes ou dizygotes, chacun en face de son miroir, enfin de son reflet dans le miroir. J'imagine même, pourquoi pas, un miroir sans teint pour que l'un voit l'autre, mais pas l'autre. Vous voyez, je cogite, voilà. Et bon, je me rappelle, j'avais fait un plan assez, quand même, assez pensé, hein, assez élaboré. Bon, Zazo m'écoute parce que tout l'intéressait, mais je veux dire, il avait d'autres choses. Et il dit lui-même dans le livre, bon, Anne-Marie Fontaine m'a raconté ça. Bon, j'avais d'autres préoccupations, j'ai oublié. Mais à peu près un mois après, je me réveille un matin en disant, j'ai trouvé.
Dans le miroir,
j'ai trouvé.
Dit, j'ai trouvé.
Et en fait, de mon idée, il reprend l'idée vitre-miroir. Enfin, miroir sans teint, miroir, voilà, ça finit par être pour lui vitre et miroir et jumeaux. Et il se dit, voilà, puisque on ne voit pas son propre visage en direct, alors l'expérience essentielle doit être celle du synchronisme de l'image. L'image bouge en même temps que moi. Ça doit être là-dessus que les enfants arrivent à comprendre que c'est leur image. Voilà. Puisqu'ils ne voient pas le visage, hein, on peut pas. Voilà. Donc, ça doit être sur cette expérience-là. Et donc, il imagine donc, une expérience qui consisterait à filmer des jumeaux. Donc, là, du coup, il serait plus filmé, je dirais, pour l'intérêt des jumeaux eux-mêmes, mais comme un peu un dispositif. Enfin, voilà. On va filmer des jumeaux dizygotes et monozygotes, qu'on va filmer soit derrière une vitre en face leurs jumeaux, soit on va substituer à la vitre un miroir et ils seront en face de leur reflet. Et au moment où on verra une différence, alors on saura qu'ils se sont identifiés, voilà, s'ils ne font pas la même chose devant leur image ou devant leurs jumeaux, l'avantage des jumeaux monozygotes étant le fait de leur présenter visuellement un même spectacle en quelque sorte, une même apparence visuelle, à la seule différence que ça bouge en même temps ou ça ne bouge pas en même temps. Bon, ce qu'on fait, donc il raconte par le menu tout, c'est incroyable. Rien que de faire fabriquer un miroir sans teint à l'époque, voilà, finalement c'est à la préfecture de police qu'on en a trouvé un. Enfin bon, je veux dire, c'est un vrai conte, hein, les histoires de Zazo. Voilà. Voilà, on s'installe et on fait ça. On recrute des couples de jumeaux. Moi, j'allais dépouiller les listes d'état civil dans la mairie du 14e pour demander ensuite aux parents, voilà, et s'ils voulaient bien participer. Les parents de jumeaux sont assez partants pour ce genre de choses. J'allais les chercher à domicile souvent parce que les, voilà. Donc, c'est vraiment de la recherche où on fait tout de A à Z, quoi.
Motivé.
Voilà. Motivé. Et il se dit, pendant qu'on va faire cette expérience-là, en fait, le premier miroir qu'on avait était comme un gros hublot et comme une fenêtre qu'on ouvrait. En fait, on avait deux fenêtres successives. On pouvait mettre soit la fenêtre miroir, soit la fenêtre vitre. On met les deux jumeaux de chaque côté. Et il se dit quand même, il y a déjà eu quelques recherches, en particulier d'une américaine qui s'appelle Amsterdam, qui a consisté, et puis surtout de Gallup, qui a travaillé avec les chimpanzés, qui a consisté à essayer de trouver un critère de la reconnaissance de soi, enfin, l'identification de soi, grâce à un artifice qui est de mettre une tache sur, par exemple, pour les chimpanzés, on leur mettait au-dessus du sourcil. Voilà. Alors, les chimpanzés, on les anesthésiait avant de leur mettre pour pas qu'ils puissent sentir. Voilà, après on les réveillait, et quand ils étaient bien réveillés, on les mettait devant le miroir. Les enfants de Amsterdam, elle collait, je crois, une petite pastille ou un petit truc, voilà, sur la joue des enfants, avec l'idée, si l'enfant se reconnaît, quand on lui met ça à son insu, évidemment, quand on va le mettre devant le miroir, il va voir le visage avec un truc bizarre, une tache. S'il sait que c'est son visage, il va, au lieu de mettre la main sur le miroir, toc, il va la mettre sur son visage. Et voilà, ça va être le signe qu'il a appris que le visage d'en face, il est là, en fait. Voilà. Donc Zazo se dit, on va reprendre ça aussi. Et on met une tache, la première qu'on a mise, c'était sur le bout du nez des enfants. Et ensuite, il se dit, bon, tant qu'on y est, on va encore tester autre chose. Puisque sa question aussi, c'est à quel moment il se retourne, non pas vers lui-même, mais vers sa mère, etc. Donc il dit, on va mettre un truc simple, un clignotant qui va s'allumer derrière lui. Et donc, à un moment donné, on va voir si, quand il voit clignoter dans le miroir, il va se retourner. Donc on a trois expériences. Est-ce qu'il va se différencier face à lui, à son reflet face, est-ce qu'il va se retourner et est-ce qu'il va se retourner vers lui avec la tâche. Hypothèse, au départ, ça doit être au même moment. On filme, donc, c'était 14 couples de jumeaux, donc 28 enfants qui chacun passe dans un ordre contrebalancé. Et aux surprises, ces trois expériences ne se passent pas du tout au même âge chez les enfants. Donc, première surprise, alors je commence par la tâche, là, qui était là, en fait, à ce moment-là. Première réussite, 17-18 mois. Et à peu près tous les enfants y arrivent, 30 mois. Bon. Donc déjà, voilà, 17-18 mois. Bon, on n'est pas à 9, pas du tout. Le clignotant, encore plus tard. Et par contre, différence vitre-miroir, dès 12 mois, c'est déjà là. Donc alors là, perplexité totale, enfin pas perplexité, mais je veux dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vitre-miroir, c'est donc pas l'expérience cruciale. En fait, très tôt, l'enfant n'a pas du tout la même attitude devant son reflet et voilà.
Et ça ne veut peut-être pas dire la même chose.
Donc, en particulier devant son jumeau, qui soit semblable à lui ou pas semblable à lui, il tape contre la vitre, il rit, etc. Et devant sa propre image, il est plus figé, ou alors, au contraire, il a des...
Il embrasse aussi le
miroir. Il embrasse, enfin, voilà. Et puis... retournement, pas du tout la même chose vers soi et vers un clignotant. Donc, voilà, Zazo dit, bon, bah, alors maintenant, faut s'y mettre, quoi. Vraiment, là, on ne comprend rien, quoi. Il faut repartir. Alors, ce qu'il explique, c'est que les choses ne se sont pas faites forcément de façon linéaire. Il a, par exemple, fait une expérience avec la vidéo. Il se dit, si c'est le synchronisme qui est l'expérience cruciale, prenons des enfants qui ont déjà 3 ans, voilà, donc qui ont, on sait, voilà, ils ont touché la tâche, voilà. Et si on les met devant une vidéo, on a un artifice qui permet de désynchroniser le mouvement. Est-ce qu'on va les fragiliser si on désynchronise le mouvement ? Et on va à ce moment-là dans une école maternelle à Nanterre où on avait un service de recherche de la fac. Et on prend des gamins de 3 ans, de 4 ans, voilà, à l'école maternelle. Et on les filme devant derrière un paravent, etc. Zazo se met à côté de l'enfant, discute avec l'enfant, et à un moment donné, Zazo s'en va, Zazo revient, Zazo fait bateau sur l'eau avec lui, lui parle, enfin fait des tas de choses. Puis quand on les repasse en différé, il interroge l'enfant en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus là. Voilà. C'est toi ou c'est pas toi ?» voilà. Bon. Et puis, il teste aussi quelque chose qu'on oublie quand on est devant un miroir, c'est que le miroir inverse la latéralité. C'est-à-dire qu'il dit à l'enfant, lève ta main droite. Et dans la vidéo, l'enfant lève la main droite, mais qu'il voit à gauche. Hein? Alors que dans un miroir, quand on lui dit, lève ta main droite, en fait, on a l'impression que le miroir lève la main droite, mais si on regardait bien, il lève une main gauche. Hein? Bon, mais ça, on n'en a pas franchement conscience en général.
Il faut faire une représentation.
Là, voilà. Bon, donc, toujours est-il, je fais un détour par cette expérience qui a un peu dévié du parcours initial, mais qui a provoqué à nouveau plein de surprises. C'est-à-dire que les premiers, les plus jeunes des enfants, 3 ans, 3 ans et demi, il a beau dire, mais regarde, nous on bouge et eux ils bougent pas, ou bien l'inverse, ou bien, mais c'est ta main droite, regarde, il lève pas la main droite, etc. Et quand il repose régulièrement la question, mais c'est toi ou c'est pas toi ? Imperturbable, les enfants de 3 ans, 3 ans et demi disent, bah si c'est moi, voilà, ça bouge pas. On pourrait s'arrêter en disant, voilà, ils se sont vraiment identifiés. Bon, par comparaison, avant de les mettre devant l'écran de vidéo, il les a mis devant le miroir. Évidemment, tous ces enfants disent, bah, c'est moi, voilà. Donc, on pourrait dire, ça y est, c'est bon.
C'est largement acquis.
C'est acquis. Et voilà que des enfants de 4 ans disent, non, c'est pas moi. Bah non, c'est un autre. Alors, Zazo dit, mais tu le connais? Et ils disent, ben, je sais pas, ben, tu l'as vu quelque part, ben, je sais pas, voilà. Et donc, du coup, on avait prévu de s'arrêter à 4 ans. Du coup, on continue. À l'école maternelle, on peut avoir des enfants plus grands. Et il faut attendre pratiquement 5 ans pour que des enfants disent, non, mais attends, c'est ta télé qui marche pas. Attends, tu vas voir, ça va repartir, tu vas voir, on va bouger. C'est-à-dire qu'ils aient compris qu'il y a un artifice qui n'est pas dû à eux, qui, voilà, et qui fait que c'est la télé, c'est la technique, c'est quelque chose, etc. Mais dans l'intervalle, il y a un âge où les enfants sont fragilisés et ne savent plus, si, enfin en tout cas ne disent plus que c'est eux. Et même, sont très, ils disent en gros, je ne comprends pas, quoi, non c'est pas moi. Par exemple, quand Zazo dit « Mais regarde, ça ne bouge pas en même temps que nous, mais c'est toi. » Alors, il y a des enfants qui disaient « Mais si, regarde, c'est le même pull. »
Oui, le repère.
Hein, voilà. Bon, et donc, en quelque sorte, on a beau leur donner des suggestions qui pourraient fragiliser, ils ne les prennent pas. Ils ont une conviction qu'ils gardent. Et puis, peut-être qu'un peu plus grand, ils se laissent, ils prennent en compte ce que dit l'adulte en disant bah oui, c'est vrai, ça bouge pas, bah oui, c'est vrai, c'est bizarre, je lève la main d'un côté, ça lève de l'autre, etc. Donc, ils n'ont pas encore les moyens de s'en sortir, comme les plus grands qui diront mais si, c'est nous, mais c'est ta télé qui est bizarre. On revient sur l'histoire du synchronisme et Zazo se dit faut qu'on continue, faut qu'on aille du coup maintenant sur le terrain. Parce que peut-être que notre système sophistiqué avec vitres miroirs, il y avait 2 caméras, enfin tout ça était caché, mais enfin quand même, c'est hein, faut qu'on comprenne et faut qu'on aille sur le terrain. Et donc à ce moment-là, on repart dans des crèches, voilà, on recommence avant même 9 mois et on voilà et on y va avec. Alors là, on met la tâche non pas sur le nez, parce qu'on a pensé qu'en louchant, les enfants pouvaient quand même arriver à la voir. Donc là, à ce moment-là, on la met plus sur la joue. On prend un fard à paupières bleu pour qu'on ne sente rien. Voilà, bon. Et on retourne, on va en crèche. Voilà, on s'installe dans un petit coin avec l'enfant et qui vient avec sa puéricultrice habituelle. Et voilà. Et on y va. Et là, pour le coup... on peut décrire de façon beaucoup plus progressive les différentes étapes. Donc la première étape, en fait, elle se situe 6 mois, voilà, même plus petit, 4 mois, 6 mois, etc. En fait, devant le miroir, l'enfant sourit, tape, voilà. Et il a exactement les mêmes messages, on peut dire, les mêmes qu'il enverrait à un autre enfant, à la différence que son geste est arrêté par la surface de la glace, et que donc, voilà. Et il a une jubilation quelque chose qu'on pourrait appeler de la jubilation, de taper, 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 etc. Et puis apparaissent ce qu'on avait déjà vu hein, chez les jumeaux, mais qu'on retrouve chez tous les enfants, ce qu'on a appelé les jeux de main. C'est-à-dire qu'il tape, il tape, et tout d'un coup, il arrête son tapement et regarde la main. Et éventuellement, à ce moment-là, il la remet beaucoup plus doucement, il la colle. Dans le premier film, on voyait même, il y avait une petite fille, elle soulevait les doigts un par un, en surveillant donc l'effet, voilà. Et elle tape, elle regarde, elle retape, ou bien elle lisse, elle regarde sa main qui lisse, elle arrête, elle regarde, etc. Donc on voit apparaître des expériences où en quelque sorte l'enfant fait ça avec ses mains, mais il le fait aussi avec ses pieds. Il peut éventuellement coller aussi son t-shirt au miroir, regarder, coller, etc. Où on voit qu'il allie, il fait une recherche de parité, en quelque sorte de similitude, et jointe aussi à la similitude du mouvement, qui, les deux. Et en fait, grâce aux parties visibles de son corps, qu'il peut mettre à distance, les pieds et les mains, il apparie deux expériences, ça bouge en même temps, mais en même temps, je vois que c'est pareil. Et ça, c'est très très fréquent, c'est chez tous les enfants, 9 mois jusqu'à 12 mois, etc.
Donc ça s'étale.
Voilà, ça s'étale avec beaucoup de sourires, de plaisir, de voilà. Et apparaît qu'en fait tous les enfants arrivés vers 16 mois, 18 mois commencent de ne plus sourire devant le miroir, de ne plus avoir envie de se regarder. Quand elle les incite un peu à rester, bon, des fois ils résistent pas, donc ils restent quand même, mais ils se mettent sur le côté, ils jettent des coups d'œil sur le côté, ou bien on voit des enfants qui regardent en l'air. Et on a vraiment des fuites du regard. Éventuellement, on a des enfants qui tournent le dos au miroir. Ils veulent bien rester parce qu'on est un peu insistant. Mais finalement, ils ne veulent plus regarder. Et donc, ce qu'on a appris, déjà avec les jumeaux, mais en plus voilà, dans les crèches, c'est que cette phase d'évitement du miroir, elle arrive après cette phase d'exploration des parties visibles et qu'elle est commune. Elle est commune à tous les enfants. Et elle précède le moment où l'enfant touche la tâche. Donc, tous ces enfants de 9 mois, 12 mois, quand on leur met une tâche, ils vont la gratter sur le miroir. Et arriver vers, après cette phase d'évitement, ou en même temps, ça peut aussi se... Quand on leur met la tâche, toujours là, voilà, de la même façon qu'aux plus jeunes, ils fixent très très fortement cette image bizarre. Et alors, les premiers 18 mois, parfois, on voit la main qui va vers le visage, mais ils ne savent pas exactement où elle est. Et finalement, ils la trouvent. Et puis, quand on est plutôt vers 2 ans, ils regardent ça et toc.
Direct.
Voilà. Et j'ajoute juste qu'on a eu quelques enfants plus grands après qui nous ont intrigués parce qu'ils étaient largement à l'âge où la majorité touchait la tâche, qui ne le faisaient pas. Donc on a trouvé un dernier truc dans nos dernières recherches à la fin, c'est quand des enfants un peu grands comme ça étaient un peu sidérés sans porter la main au visage, on leur donnait un Kleenex ou en leur disant « enlève la tâche à la fin ». Et dans beaucoup de cas, ils prenaient le Kleenex. Quand on regarde l'évolution des comportements de l'enfant devant son reflet, donc il y a cette période où il expérimente les parties visibles de son corps. Ensuite, il y a l'évitement où il n'a pas envie de se regarder. Mais à distance du miroir, il fait des choses qui sont en rapport avec son visage. Par exemple, il cligne des yeux, il secoue la tête, il suce son pouce devant le miroir, il tire la langue. Hein? Et donc, on peut penser qu'à ce moment-là, il a un appariement différent de ce qui se passe pour les parties visibles. Pour les parties visibles, il comprend que ça bouge en même temps et en même temps, il voit que c'est pareil. Pour le visage, qui est donc la partie invisible du corps, il faut qu'il apparie « je sens que je bouge » et « je vois que je bouge ». Donc, il va apparier une sensation kinesthésique avec du visuel. puisqu'il ne peut pas là apparier, comme pour la main, il ne peut pas apparier aussi le visuel en même temps. Mais on peut donc penser que l'expérience précédente avec les parties visibles a construit quelque chose qui va diffuser sur le visage, qui étant une partie invisible, demande un appariement intermodal, on peut dire, kinesthésie vision, qui a été quand même rodée par exercée avant avec les parties visibles. Voilà. Et donc, ce moment où l'enfant joue un peu avec son visage, colle son visage, le décolle, etc., arrive juste au moment où il va toucher la tache. Sauf dans les tout premiers âges où ça se produit, tous les enfants, on n'a pas regardé leur latéralité, ils touchent la tache du bon côté. Je ne sais plus de quel côté on la faisait maintenant. Peut-être que je ne la faisais pas toujours au même endroit d'ailleurs, c'est possible.
D'accord.
Voilà. Donc, voilà, on est dans la succession de ces étapes-là. Et alors, reste un mystère, c'est qu'on se dit, ça y est, quand l'enfant touche la tache, il a identifié que le miroir est un reflet. Sauf que quand ce n'est pas eux, mais un clignotant, on a vu qu'il ne se retourne pas vers un clignotant. En tout cas, décalé de 6 mois. Donc, on se dit, peut-être que c'est parce que, donc se dit Zazo, le clignotant, c'est trop artificiel. Si c'était sa mère, il se retournerait. Donc, on retourne au CNRS, on reconstruit un nouvel espace d'expérimentation. Alors là, on était dans une grande pièce au service du film du CNRS, donc on avait la place. Et donc, on nous construit une plateforme sur laquelle il y a 3 sites d'observation. Il y a un grand miroir vitre coulissant en pied, c'est-à-dire au lieu d'avoir un gros hublot comme on avait dans la première recherche, c'est un grand miroir vitre entier. Et donc, c'est une cloison en bois. On peut coulisser un panneau, ces vitres. On continue de coulisser ces miroirs. Voilà, ça c'est un côté. De l'autre côté, on a un grand miroir aussi en pied dans une cloison derrière laquelle il y a un caméraman, c'est une glace sans teint, qui va filmer. Donc on va reprendre la tâche et tout ça là. Et derrière l'enfant qui est en train de se regarder, derrière, on a construit ce qu'on a appelé une cage à mère. Bon, c'est pas très joli comme, mais c'était dans notre jargon. On a construit une espèce de petit box dans lequel on met la mère, ou le père, et c'est un espèce de voile qui est devant. C'est un truc de cabaret. On peut faire apparaître quelqu'un ou pas selon qu'on l'éclaire d'une certaine façon. Donc, en fait, dès le début de l'expérience, la mère est cachée dans sa petite cabane. Et à certains moments, on va l'éclairer. Et donc, l'enfant va la voir. Il va voir dans le miroir sa mère ou son père, etc. Donc, on refait tout ça très bien. On reprend des jumeaux. À nouveau dizygotes et monozygotes, et des enfants inconnus. Et on refait tout à fond, en commençant encore plus bas, 6 mois, et en se disant, on va encore aller un peu plus loin. Voilà. Et donc, pour résumer, se confirme que pour la tâche, on arrive toujours au même. Finalement, avec toutes ces expériences, il y a eu, 300 enfants qui ont été observés avec la tâche. C'est toujours, le plus précoce, c'est 17 mois, 17-18, et le gros de la troupe, c'est 2 ans et demi. 2 ans déjà, la majorité, et puis 2 ans et demi, pratiquement tous les enfants touchent la tâche. Voilà. Vitre miroir, intéressant, parce que comme les enfants sont en pied, et donc on varie, l'enfant va voir ou son jumeau, ou un inconnu, avec toujours l'idée de Zazo, c'est que cette question, est-ce que l'évitement n'est pas dû au fait que, puisqu'il ne se connaît pas encore, il prend l'image d'en face pour un inconnu. Bon. Et donc, l'expérience montre que non. Et que face à un inconnu, il n'est pas du tout comme avec son reflet. Avec un inconnu, comme avec un connu, c'est la même chose. Ils tapent, ils font des jeux de doigts, ils font des jeux de mains, ils bougent, Et devant sa propre image, l'enfant est beaucoup plus statique, il fait des expériences, mais d'une autre façon. Donc, rien à voir, ça n'est pas un inconnu. Voilà.
Il se passe quelque chose.
Voilà, il se passe quelque chose qui va être exploré dans une autre encore manip. Alors, du coup, je reviens pour la mère. Eh bien, ça confirme que c'est toujours plus tardif. Ils ne se retournent pas vers leur mère. Ils commencent de se retourner, mais facilement, plutôt vers 3 ans. Hein. Et donc, bon, les réussites commencent d'arriver, mais bon. Et là, juste avant de démonter le dispositif, parce qu'il fallait qu'on le démonte, la pièce allait servir à autre chose, puis on avait fini, Zazo dit au réalisateur, au caméraman, autant pour notre plaisir que peut-être si on a besoin d'images pour du générique, ou etc., j'aimerais bien amener mon petit-fils, son petit-fils avait 4 ans, et moi je dis, ben, j'ai ma fille qui a 5 ans, je peux aussi l'amener, et on se fait un petit, voilà, une petite séquence comme ça. Donc, le petit-fils de Zazo s'installe devant le miroir, c'est moi qui lui sers de, voilà, de guide. Son père s'installe dans la cage, dans la cabane. Et quand on allume et qu'il voit son père, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais où tu es? Mais t'es dans ton lit ou quoi ?» Parce qu'on oui, on avait pas, mis... Voilà. Et donc... je dis la provocation qu'on avait décidé de dire, je lui dis, ben, va le chercher. Et le miroir, il est coincé dans la cloison, donc il ne peut pas le contourner. Donc, il dit, ben, je ne peux pas. Bon, ma fille qui a 5 ans, Zazo prend ma place, je me mets dans la cabane à mer. Et ma fille qui a 5 ans, quand Zazo lui dit, ben, va la chercher. Elle dit, mais je peux pas, il y a la glace. Alors là, Zazo dit, ah, on croyait encore cette affaire résolue, elle l'est pas, faut qu'on continue. On recommence tout, notre cage extraordinaire là, c'est peut-être aussi un artifice aussi de notre dispositif expérimental, c'est pas assez naturel, et on retourne sur le terrain. Et on retourne en crèche, et on retourne à l'école maternelle. Et on repart en crèche avec, cette fois-ci, un miroir qu'on peut contourner.
Oui, qui tient debout.
Voilà, qui tient debout. Et on l'installe, voilà. On fait ça au moment où les parents arrivent le soir. On s'est mis d'accord avec eux pour... On se met dans un petit coin. Pour que ça leur prend 5 minutes. Voilà, on leur dit, voilà, quand vous allez arriver, on a installé le miroir aussi face... Enfin, dans l'enfilade d'une porte. Hein. Quand vous allez arriver... On va installer l'enfant devant le miroir. Vous n'allez pas vous montrer avant. Et vous allez, à ce moment-là, quand on vous fait un tout petit signal, vous allez vous mettre dans l'embrasure de la porte pour que l'enfant vous voit. Voilà. Donc, on avait prévu 3 manips, en quelque sorte. Le parent se mettait juste dans l'embrasure de la porte. L'enfant le voyait dans le miroir. Si l'enfant ne bougeait pas, le parent lui faisait un petit signe, mais évidemment sans aucun bruit. Hein. L'idée était qu'il n'entende pas du bruit pour se retourner. Voilà. Et puis si l'enfant ne bougeait toujours pas, le parent devait s'avancer doucement. Voilà. Et ce qu'on voit, puisque c'est un miroir contournable, c'est que jusqu'à un âge très avancé, les enfants, quand ils voient le parent, hop, filent derrière le miroir. Et puis, évidemment, en se retournant, ils voient le parent. Voilà. Et ceci, voilà, les petits, les grands, etc. Donc, un certain nombre d'enfants se retournent, mais pas la majorité du tout. Et ensuite, on se dit, bon, alors, on va à l'école maternelle. Et là, c'est l'institutrice qui sert de... Voilà, qui se cache, qui se montre dans l'embrasure de la porte. Et même, on lui a donné des Smarties dans la main, et si vraiment l'enfant ne se retourne pas, elle ajoute, en s'avançant, enfin, elle ajoute le fait de montrer des bonbons. Et moi qui suis sur le côté du miroir, complètement latéralement, je dis à l'enfant, prends les bonbons. On a beaucoup fait ça, ce genre de choses avec Zazo, des provoques à l'enfant. Et hop, l'enfant file derrière le miroir. 4 ans et demi encore. Et en fait, on n'a pas élucidé ça. Il y a encore à peu près 25% d'enfants qui, à 4-5 ans, n'ont pas construit l'idée que le miroir était un espace virtuel. C'est ce qui a permis Zazo, à la fin du livre, par exemple, de différencier vraiment la construction de l'espace, enfin, de l'identification de son image, de la construction de l'espace virtuel pour soi et la construction de l'espace virtuel pour les autres, pour les objets, pour etc., qui en fait sont visiblement dissociés. C'est pas la même âge et c'est pas tout à fait les mêmes problèmes. Voilà, c'est plus facile pour soi que pour le reste. Hein. Restait le problème de l'évitement, qui donc était... Toutes les recherches qu'on a faites avaient montré que ça existe chez tous les enfants, plus ou moins, hein, et à comprendre ce que c'était. Zazo fait trois hypothèses. La première, c'était « c'est le signe qui se reconnaît ». On en conclut que non, ça précède, mais bon, en tout cas, ce n'est pas conjoint avec le fait de, voilà, de toucher la tâche. Deuxième hypothèse, peut-être qu'il est... Il est désagréablement voilà, impressionné par le fait que en fait, c'est un visage inconnu. On a vu que non. Donc il fait une troisième hypothèse, c'est que, c'est le titre du film qui a présenté ces recherches-là, ce qu'il voit, c'est un autre, mais pas comme les autres. C'est-à-dire qu'à 18 mois, ou 15-18 mois, il a déjà une expérience des échanges avec d'autres enfants. Et en fait, il a l'expérience que la communication, c'est... je tape, tu tapes, mais il y a un décalage temporel, on ne fait pas exactement la même chose, ce n'est pas de limitation, feedback, comme le miroir, je tape, il tape, en même temps, temporellement. Hein. Et donc, qu'en fait, c'est un autre étrange, ce n'est pas un inconnu. En quelque sorte, c'est inconnu, mais étrange. Hein. Et que c'est ce comportement social bizarre qui va créer le malaise chez l'enfant. Et donc, on se dit que si on filme des animaux dont on est sûr qu'ils ne se reconnaissent pas, enfin, qui ne s'identifient pas le visage, par exemple les macaques, on va voir si l'évitement existe chez les animaux. Et on voit tout de suite, même sur seulement 4 macaques, que ça n'a rien à voir d'être face à un autre congénère que face à un miroir. En particulier, les macaques se reculent au fond de la cage, ils claquent des dents, qui est un comportement d'anxiété, ils bâillent énormément, qui est aussi un comportement de tension, voilà. Parfois, ils sautent sur le macaque du miroir, et aussitôt, ils se reculent. Et donc, ils ont des comportements, finalement, il y a des macaques qui se mettent au fond de la cage et évitent du regard. C'est-à-dire qu'on voit même l'évitement du regard qu'on voyait chez l'enfant. Voilà. Alors, il y a une scène très drôle que Zazo ne reprend pas dans ce livre, mais qui nous a quand même beaucoup fait rire, c'est que ce sont des adultes. Donc, il y a les phénomènes de dominance, de soumission. Et quand un macaque rencontre un autre macaque, normalement, quand ils sont... dans des échanges tels qu'ils se passent d'habitude, un macaque qui va, par exemple, s'avancer vers un autre macaque, donc plutôt en position dominante, doit attendre comme réponse que l'autre se tourne et lui montre le postérieur. Ça, c'est un macaque bien élevé. Or, quand un macaque fonce sur son reflet dans le miroir, il attend que l'autre se tourne et lui montre son postérieur. Or, cet autre lui fonce dessus, synchroniquement. Donc, le macaque, immédiatement, prend la posture de soumission. Et quand il regarde dans le miroir, il voit que l'autre aussi a la posture de soumission. Et là, le macaque ne comprend plus rien. Et donc, il se recule au fond de la cage, il claque des dents et il bâille. Et ça ne va plus du tout pour le macaque. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de confirmer que, en fait, cette phase d'évitement, effectivement, ça n'est pas le signe de l'identification. C'est autre chose. Effectivement, c'est un malaise. C'est un peu comme les enfants à la vidéo, les un peu plus grands, qui tout d'un coup s'interrogent. C'est un peu comme si l'enfant de 12 mois, devant le miroir, et il fait ses expériences, mais il ne s'interroge pas du tout. Et puis à 15-18 mois, il ne tape plus. Et finalement, c'est comme si, en quelque sorte, dans sa tête, il disait « Mais qu'est-ce qui se passe, quoi ?» ça marche bizarrement, ce truc. Hein. Donc, en quelque sorte, l'évitement, le sens de l'évitement est élucidé grâce à cette comparaison animale qui, théoriquement, ne peuvent pas s'identifier dans le miroir, et enfant. Hein. Et donc, on avait continué d'explorer toujours cette question, sur quels indices, sur quelles expériences l'enfant se reconnaît. Et donc, il y avait encore deux enseignants-chercheurs, Jean-Luc Jézéquel, qui s'est passionné pour la photo, comment l'enfant se reconnaît sur les photos, plus tôt, même âge, plus tard que devant son reflet. Voilà. Et puis, moi, qui avais aussi décidé de faire une thèse, et j'avais proposé à Zazo d'observer l'ombre, de comparer les mêmes enfants devant leur reflet et devant leur ombre. Donc, ça faisait deux dispositifs qui faisaient encore varier les indices qu'avait l'enfant. Sur la photo, il avait les indices d'identité figurale, on peut dire, hein, voilà, perceptive. Mais ça ne bougeait pas en même temps que lui, la photo ne bouge pas. Et avec l'ombre, on a plus d'indices figuraux, en tout cas vraiment pas beaucoup, juste la forme du corps. Hein. On n'a plus de visage. Voilà. Mais ça bouge en même temps que vous.
Ça voilà. Vous suit. Hein.
Ça vous suit. Et donc, on a, donc lui de son côté, moi du mien, voilà, tout ça faisait une équipe qui tout convergeait pour essayer de prendre par tous les côtés comme, pour comprendre. Donc, ce qu'il montre, lui, bon, il y avait quelques recherches déjà hein, de chercheurs américains sur lesquels il s'appuie, qui disaient que la photo, en gros, c'était en même temps que le miroir, et voilà. Et donc, l'idée, c'était effectivement, pour s'identifier sur une photo, est-ce qu'il ne faut pas effectivement déjà s'être identifié dans son reflet ? Parce que comment est-ce qu'on pourrait s'identifier sur une photo, donc avoir appris son visage ?
Si on ne s'est jamais vu.
Si on n'a pas déjà appris son visage grâce au miroir. Hein ? Voilà. Et donc, voilà, les autres recherches étaient plutôt du style « c'est en même temps ». Ce qu'il a montré, alors il a fait plein, et c'est un dispositif très, très astucieux aussi, il a fait plusieurs photos de l'enfant, des photos où il se voyait plutôt en gros plan, où il se voyait en buste, avec ses propres vêtements, ou avec les vêtements, un bricolage à l'époque, qui serait plus facile maintenant avec Photoshop, mais qu'il a bricolé lui-même, il se voyait avec les vêtements d'un autre, hein, ou les vêtements de la crèche, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des vêtements un peu uniformisés dans les crèches. Et aussi, il se voyait en pied avec ses deux parents. Hein. Donc, il essayait de voir dans les indices perceptifs, quand il n'y a rien que le visage, quand il y a le visage et un vêtement, vêtements connus, vêtements pas connus, ou avec les parents. Et ce qui montre, c'est qu'il y a à peu près 6 mois de décalage, c'est plus tard que le miroir, mais vraiment, 6 mois, et que, en fait, tout ce qui est les vêtements, etc., ne joue pas tant que ça.
C'est-à-dire quel âge, finalement ?
Disons, si on peut dire que 24 mois, il n'y a pas, c'est pas la totalité des enfants qui se reconnaissent dans le miroir, mais, enfin, qui s'identifient dans le miroir, mais c'est la majorité. Si on prend, par exemple, 75%, ça, c'est plutôt 30 mois, la photo.
D'accord.
Donc, c'est plus tard. Mmh. Voilà. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il a aussi, sur un présentoir, il présentait par exemple 3 photos de visage d'enfants aussi du même groupe de crèche. Mmh. Donc, il y avait l'enfant et il a cherché un critère non-verbal parce que c'est comme on avait le critère non-verbal de la tâche, ça permettait de se rendre compte que avant que l'enfant puisse dire son nom ou c'est moi ou quelque chose, en fait, il s'identifie déjà. Hein. Donc lui, il prenait comme critère non-verbal le fait de montrer 3 photos à l'enfant en lui disant où il est, le prénom de l'enfant. Et donc tout ça était toujours mélangé, etc. Et donc et les 3 photos étaient semblables, sauf la tête. Et donc, voilà. Donc, à chaque fois, il avait ce critère de désignation et aussi le critère verbal. Hein. Bon, pour faire une aparté, le critère verbal n'est pas intéressant en ce sens qu'il nivelle tout. C'est-à-dire que pour que le critère verbal soit réussi, il faut savoir parler. Et du coup, Effectivement, 33 mois, 36 mois, bah, tout le monde dit voilà, c'est Mélanie, c'est moi, etc. Voilà. Ça, dans tous les types de doubles visuels, ça nivelle tout. Mm-hmm. Voilà. Et donc, c'est les critères non-verbaux qui sont les plus intéressants. Hein. Donc, il a montré ça, et c'était vraiment intéressant. Donc, après, donc ça montre que quand on n'a pas le synchronisme, pour s'appuyer, peut-être que c'est grâce à ça, mais plus tard, on peut se reconnaître aussi sur quelque chose en deux dimensions, qui ne bouge pas en même temps que vous. Bon, on a quand même vu des enfants qui grattaient derrière la photo, chez les plus petits, hein, ou qui la retournaient. Et puis, dernière recherche, l'ombre. Donc, pareil, je me suis installée dans une crèche, et là, j'ai fait deux types d'ombres à l'enfant, une ombre verticale et une ombre au sol. Donc, avec un projecteur qui était mis en position basse, je lui faisais une ombre verticale de la même taille que son reflet. Hein? Donc, j'essayais, voilà, j'avais aussi un miroir que je lui présentais, et donc, j'essayais que l'ombre ne soit pas déformée, qu'il voit bien sa tête de la taille habituelle, le plus proche de lui, voilà. Et j'essayais d'imaginer un indice non verbal de reconnaissance. Je ne pouvais pas lui mettre une tâche, évidemment. Hein? Donc j'ai essayé d'imaginer autre chose et j'ai imaginé de mettre un artifice sur la tête. Donc on était en hiver, tous les enfants avaient des cagoules. C'est quelque chose qui est moins fréquent maintenant, mais à l'époque, tous les enfants avaient des cagoules ou des bonnets d'hiver. Et en fonction des enfants, je savais que j'allais filmer après, je prenais leur bonnet et délicatement, je cousais une plume à l'arrière du bonnet sans qu'ils le sentent. Enfin, j'essayais de faire ça pour qu'il n'y ait pas de sensation tactile. Et à un moment donné, où on jouait après avoir joué avec l'ombre, voilà, je leur disais, attends, je vais te mettre ton bonnet pour voir. Voilà. Je mettais le bonnet et donc, ils avaient une plume qui dépassait du bonnet, ils ne le savaient pas. Et je le remettais devant leur ombre. Et donc, on a la même chose. On voit les enfants qui font des...
Qui bougent,
voyons ce truc, plume, hein. Et qui vont essayer d'attraper ce truc bizarre sur l'écran. Hein. Et puis, à un moment donné, ils voient ce truc qui bouge et clac. Ils l'arrachent sur leur tête.
Et à un moment donné, c'est un autre âge.
Et alors, c'est encore plus tard que la photo. Voilà. C'est encore plus tard que la photo parce que on est à 33 mois. Voilà. La photo, au début, c'est 27 mois. Hein, 24 mois le miroir, on peut dire majoritaire. 27 mois la photo. Et, mais ça ne veut pas dire que c'est encore que tous les enfants y sont. Hein, voilà. Et puis, la plume de l'ombre, c'est 33 mois. Et puis, je leur proposais donc une ombre au sol, donc avec un projecteur mis en hauteur, et cette ombre variable selon l'endroit où ils allaient se positionner, qui pouvait être très courte, très longue, etc. Et cette ombre au sol est encore identifiée encore un peu plus tard que l'ombre verticale. Et elle a comme particularité d'avoir un point d'adhérence au pied. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que à un moment donné, vers à peu près 33 mois, ils ne supportent pas cette adhérence au pied. Donc, les plus petits, par exemple, j'en ai filmé un en particulier qui a dû rester peut-être 5 minutes en levant un pied, en levant un autre pied, en redécollant, en collant. Sans réaction émotionnelle, voilà. Et puis, à force de lever le pied, il perd l'équilibre et il se colle les quatre membres, si je puis dire. Ouais, alors là, il essaye de décoller aussi les mains. Et finalement, toujours sans pleurer, sans rien, hein, finalement, au bout de 5 minutes, il se couche complètement sur son ombre et en quelque sorte, il l'annule, comme les enfants qui se collent totalement contre leur reflet l'annulent d'une certaine façon. Donc, les petits, ils expérimentent ça, mais apparemment sans réaction émotionnelle. Et puis arrive un âge où les enfants voient ce truc qui bouge en même temps qu'eux et où se sauvent hors du rond lumineux, puisque le projecteur faisait un rond lumineux. Ils se sauvent hors du rond lumineux, ils ne veulent plus rentrer dans le rond lumineux.
Toujours l'évitement.
Ou alors, ils tapent dessus et ils donnent des... Ils donnent des coups de pied ou alors, d'un geste un peu rageur, ils essayent de la balayer, de la frotter. Voilà. Et d'ailleurs, il faut dire que l'ombre est le seul double visuel qui provoque des réactions agressives. Elles sont rares, hein, mais elles n'existent jamais avec le reflet. Jamais, jamais. Ou bien alors, autre réaction rare, mais aussi complètement spécifique avec l'ombre, d'appeler l'ombre par le nom de son frère ou de sa sœur ou d'un copain. Je réservais pour la fin, tout à fait pour la fin, une dernière provocation parce que j'avais peur des réactions des enfants, donc je l'ai positionné tout à la fin. Donc à la fin, quand l'enfant a joué avec l'ombre, etc., je me mets à côté de lui. Et donc nous avons nos deux ombres par terre et je lui dis, alors, qui c'est là? Alors, c'est des enfants qui sont identifiés. Alors il dit, voilà, c'est moi. Et qui c'est là? Non. Et d'un ton neutre, voilà, j'avise, si vous voulez, sur le sol sa main et je dis « je marche sur la main ». D'un ton très… voilà. Hein. Et les enfants de 33 mois, ils disent « ah non !» Et leur propre main, ils la retirent. Ou ils sauvent. Ou ils me disent « pas marche ? Non, pas mal ?» Voilà. Même si c'est des réactions rares, on voit que là, ça rejoint tous les mythes, hein, les mythes que Zazu raconte à la fin de son livre, qui est que dans certaines peuplades, on n'a pas le droit de marcher sur l'ombre de quelqu'un, c'est une offense énorme à la personne, parce que l'ombre, c'est son âme, hein, l'ombre, c'est lui. Et puis, on arrive à presque 3 ans, et les quelques enfants que j'avais dans ces âges-là, je dis, je marche sur la main, il rit, et il me dit... Je marche sur toi et ils font un jeu, ils marchent sur mon ombre, je marche sur leur ombre et on fait un jeu en riant à la fin. Voilà. Et on peut dire que quand ils en sont là, voilà, ils sont venus à bout de tous les doubles visuels auxquels ils ont été confrontés, entre le reflet, la photo, la vidéo, l'ombre, etc. Et que, bon, c'est solide. Donc c'est un très long cheminement, le développement de la conscience de soi.